Axel, le sexe féminin serait délaissé par les sciences de l'évolution et depuis longtemps.
Oui, c'est ce que révèle une étude parue la semaine dernière dans le journal PLOS ONE. Les auteurs, une Suédoise et deux Australiens, ont passé en revue 400 publications parues entre 1989 et 2013 qui traitent spécifiquement de l'évolution des parties génitales, toute espèce animale sexuée confondue, la forme, la taille, la pilosité, les particularités. Et les chiffres sont assez parlants. 50% de ces publications se sont intéressées au pénis, 8% au vagin et 42% se sont intéressés aux deux sexes des espèces étudiées à chaque fois.
Alors, on a une idée du pourquoi de cette inégalité, Axel ?
Bien sûr, les trois chercheurs se sont posé des questions. La première, est-ce que ces publications ont été faites majoritairement par des hommes, ce qui expliquerait basiquement qu'ils s'intéressent davantage aux attributs masculins ? La réponse est oui, mais ce n'est pas la raison de ce sexisme, puisque même les femmes qui ont publié se sont intéressées majoritairement au pénis. Rien à voir avec l'auteur. Ils ont aussi pensé à la complexité de l'étude, hein. C'est vrai, c'est plus facile d'observer et de décrire un pénis, un organe souvent externe, qu'un vagin. Mais encore une fois, fausse route, hein, car les techniques d'imagerie modernes n'ont pas amélioré la situation, bien au contraire. En fait, pour trouver un début de réponse, il fallait remonter aux origines des travaux sur la sélection sexuelle.
Charles Darwin était-il connu pour être sexiste, Axel ?
Alors, pas de réponse à cette question. C'est une des théories. Darwin considérait le rôle de la femelle et l'organe génital féminin comme passif dans les processus de sélection sexuelle. Mais par passif, il ne faudrait peut-être pas entendre peu important. Écoutez Tatiana Giraud, biologiste de l'évolution au Muséum d'histoire naturelle. Pour elle, il n'y a pas de biais et le point de départ de son explication est justement la femelle.
C'est tout simple. L'individu qui fait des gros gamètes, c'est la femelle. Et l'individu qui fait plein de petits, c'est le mâle. C'est parce que les femelles sont des ressources précieuses qui font des gros œufs que les mâles doivent féconder pour pouvoir passer leur gène à la génération d'après, qu'il y a une sélection sexuelle si forte chez les mâles. Donc c'est au départ parce que la femelle choisit que parfois, ça sera plus intéressant de regarder que les mâles. Souvent, ça induit une réponse évolutive de la part des femelles avec une coévolution. Et donc, c'est quand même souvent intéressant d'étudier les génitalia des femelles pour voir s'il y a eu coévolution de toute façon. Mais du coup, je pense que c'est pour cette raison qu'il y a le biais. C'est qu'il y a plein de cas où il y a plus de choses à étudier chez les mâles.
Alors Axel, tout le monde ne partage pas l'avis justement de Tatiana Giraud qu'on vient d'entendre.
Non.
Là, hein.
Par exemple, la journaliste Elisabeth Gimney, qui blogue pour la revue Nature, n'est pas du tout d'accord. Pour elle, il s'agit d'étudier deux côtés d'une équation plus complexe et l'explication de ces chiffres est bel et bien le sexisme légendaire de la science du 19e. Elle compte bien faire bouger les choses et parmi les alliés, l'université du Wisconsin, qui vient d'ouvrir une filière de biologie féministe qui tente de renverser la balance en réécrivant l'histoire de la biologie.
Bien, merci beaucoup.